Justement, comme polar, on peut dire solide, jusqu'au boutiste, on va en parler. Le festival du film coréen à Paris s'est ouvert cette année sur Vétéran. Qui veut nous présenter cette soirée d'ouverture, Nicolas?
Alors, Vétéran, bah, c'est un peu le film idéal pour entamer un festival, en fait. C'est un vrai popcorn movie, un blockbuster drôle, avec plein d'actions, qui a, à mon avis, plu à pas mal de gens de l'Assemblée. Beaucoup d'éclats de rire pendant la séance, c'était très festif. Que dire sur ce film, si ce n'est que c'est un peu tout ce que j'aime dans le cinéma coréen, le côté, enfin la maîtrise des scènes d'action, l'humour ravageur, un sens du rythme assez incroyable, enfin surtout dans les 30 premières minutes. Et surtout, ça, y a toujours un sous-texte derrière, politique, social. Bon, alors après, c'est peut-être pas très fin, mais bon, c'est, au moins, c'est percutant. Et puis, les acteurs sont géniaux. Vraiment, c'était vraiment, contrairement à l'année dernière avec Aemu, qui était Seafog, qui était assez lourd et en plus pas forcément très réussi sur certains points. Là, Vétéran, au moins, tout le monde en avait pour son argent. Et bon, voilà, ça met en forme pour commencer un festival et se taper une vingtaine de films par la suite, quoi.
Donc, bah, je pense que tu as vu pratiquement tous les films du festival. Quel était, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'ambiance d'ailleurs, puisque c'était quand même le 10e anniversaire du FFCP cette année. Donc, comment tu l'as ressenti au niveau des invités, des festivités?
Ah, bah, alors déjà, pour le niveau des invités qui étaient là, donc il y avait pas mal de réalisateurs, notamment le réalisateur de Vétéran, Ryan Seung-wan, et le réalisateur d'Assassination, on va parler, Shin-Hung. C'est ça?
Shin-Hung.
On dit chez d'ailleurs.
J'ai appris ça.
Et je sais pas pourquoi il y a un O d'ailleurs, mais
parce que c'est la transcription.
D'accord. C'est donc c'est pas grave. Mais donc c'était vraiment. Alors c'est surtout Martin Debat qui a fait les interviews. J'ai pu en faire une, donc avec justement Chey. Et voilà, au niveau des invités, donc, ce qu'on remarque, c'est qu'ils sont tous très très sympas. Enfin, ils sont tous contents d'être là.
Ils ont choisi, non pas en fonction de la qualité des films, mais au niveau de la sympathie du réalisateur. Donc cette année.
Non, c'est pas ça. Non, parce que des très bons films, et puis ils ont surtout des vraies visions de cinéastes. Mais au moins, ça fait plaisir de voir des. Enfin, ils n'ont pas du tout la même. Ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même façon de penser que certains réalisateurs français, quoi.
Après, on les voit quand ils sont en France alors qu'ils sont coréens.
Ouais, mais je veux dire, même dans leur
discours. Chez nous, ils sont inconnus.
Non, mais je veux dire, même dans leur discours, comment ils.
Sur le cinéma
Non, mais même sur la façon de tourner, comment ça se passe là-bas, on leur pose à chaque fois la question. Et puis, bon, après, d'autres anecdotes dont on m'a parlé sur certains réalisateurs français qui sont invités sur des autres festivals, genre Gérard Armé, trucs comme ça. C'est un peu le jour et la nuit. Mais bon, je vais pas parler de ça pour faire des polémiques inutiles. Mais à part ça, voilà, l'équipe est toujours super sympa avec tout le monde. Il y a une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien. Le public est assez réceptif. C'est vrai qu'on s'attend.
Réceptif, le public coréen est très réceptif.
Ouais, et c'est vrai qu'on s'attend toujours à ce qu'il y ait un peu plus de monde, parce que c'est vrai qu'à part les séances le week-end, la séance de soirée d'ouverture, la soirée de clôture. Les séances en semaine, c'est un peu vide, à part peut-être les séances du soir, il y a un peu plus de monde. Et c'est vrai que c'est un festival qui mérite vraiment d'être vu par le plus de monde possible, et je comprends pas pourquoi. Bon, les gens travaillent en même temps.
Les gens travaillent. J'ai ajouté un point en fait qui est assez rare en festival, c'est que les réalisateurs étaient là du début à la fin.
Oui, voilà. Ryan Seung-wan qui était là jusqu'à dimanche soir.
Et en général, un réalisateur qui vient présenter son film, il est là. Imagine en Russie, à l'ouverture. Son film était diffusé deux jours après, je crois encore.
Ouais,
c'est en interview entre les deux. Et après, ils se cassent. Là, ils étaient là du début à la fin. Et on les a croisés pendant tout le festival. C'est quand même très rare. Et je sais pas si c'est parce qu'ils sont coréens que c'est comme ça ou pas. J'en sais rien. Parce que dans certains festivals, avec des réalisateurs coréens, ils ne restent pas autant de temps.
Mais justement,
je pense que c'est le festival aussi. Il y avait aussi le président du GIF, du festival de Busan, qui était là. Donc, c'était quand même... C'est une façon aussi peut-être de se faire bien voir par le président du festival de rester plusieurs jours à Paris.
C'est sans doute une volonté des organisateurs.
Une volonté des organisateurs aussi, mais...
D'avoir ce vrai esprit de festival.
Bah, là, il y avait un vrai esprit de festival.
J'ai pu faire un peu la soirée. J'étais un peu à la soirée de qui suivait la soirée de clôture, où tous les réalisateurs qui étaient restés jusqu'à la fin étaient rassemblés au bar où on pouvait boire des coups et tout ça. Et ils sont tous restés jusqu'au bout, ils ont fait la fête avec les organisateurs, ils se sont même offert des cadeaux mutuellement et tout, donc c'était vraiment intéressant. Voilà quoi, c'était bon enfant quoi. Je pense qu'en fait, c'est ce genre de festival un peu plus indépendant, leur permettre de décompresser par rapport aux gros festivals qu'ils ont en Corée, où ils sont peut-être beaucoup plus...
Busan, c'est moins drôle.
Voilà, c'est moins drôle quoi. Ils sont peut-être beaucoup plus pris et beaucoup plus... ils ont moins d'air. Quoi, donc là, je pense qu'ils ont vraiment passé un bon moment... Et voilà, et ça se ressent sur tout le festival, quoi, avec le public, avec les organisateurs.
Bah c'est vrai que le public était particulièrement, aux séances auxquelles j'ai pu assister, la séance d'ouverture de vétérans, le public était particulièrement réceptif, y compris sur celle des blockbusters qui était vraiment complète, donc on va parler d'Assassination. Donc le public était vraiment à rire aux blagues, à frémir au moment où il faut
vraiment
frémir.
C'est un public coréen,
donc c'est un public qui est très...
expressif.
Ouais, qui était expressif et qui est très bon public pour le coup, ça change effectivement de nous, on va dire.
On ne rigole pas, on ne pleure pas, on ne fait rien.
Voilà. Donc on va peut-être en arriver au film d'ailleurs, donc c'est vrai qu'on a parlé de vétérans, on peut peut-être parler d'Assassination, donc je sais pas qui veut, peut-être Justin, si tu veux présenter Assassination, qui était l'autre, disons l'autre succès du box-office, on va y arriver Elias, sur justement les films qui marchaient pas, donc c'était le deuxième exemple de ce que le grand cinéma populaire coréen peut être.
Oui, donc Assassination, qui est une sorte de grosse fresque d'espionnage, donc un peu historique, d'action et d'espionnage, qui se déroule donc, sur une période de presque 40 ans. Ça démarre au début des années 10, pour se conclure à la fin des années 40. Donc c'est une espèce de fresque qui peut évoquer, comme le réalisateur, la cité en influence, l'armée des ombres, donc sur une période de 30 ans, de 30-40 ans d'histoire de la Corée, qui raconte le destin de plusieurs personnages, donc à travers des liens familiaux, politiques, donc il y a des histoires de trahison, des liens familiaux qui vont se révéler en cours d'intrigue, donc c'est assez palpitant, quoi, c'est peut-être un peu chargé en... soit en personnage ou en sous-intrigue, c'est peut-être un petit sentiment de trop plein, mais c'est quand même très prenant, il y a des rebondissements, les scènes d'action sont très, très efficaces également, et puis c'est assez impliquant, même sans connaître la période, ça arrive à être suffisamment didactique, même pour un public occidental.
Parce que ça commence en 1911, ouais. Voilà, avec une scène historique, d'une tentative
d'assassinat.
Il y a un élément un peu de qu'on retrouve généralement dans les mélos, voilà,
voilà,
deux sœurs qui sont
un peu romanesque,
deux sœurs qui sont séparées. On arrive ensuite dans les années 40, je
dans
crois.
Les années 30, 30. Et il y a les années 40.
D'abord, on est après la guerre, d'où la narration part.
Ouais.
Et pour revenir
on
en
vient
1933,
dans les années 30, où l'essentiel, voilà, de l'intrigue avec un antagonisme entre la Corée et puis l'envahisseur japonais. Et donc là, c'est là où vont se jouer ces différentes pistes lancées, à la fois politiques et romanesques. Donc on a trois personnages qui sont lancés sur une mission d'assassinat d'un collabo coréen. Et donc à travers ces trois personnages, il y a d'autres qui gravitent autour, qu'on a découvert dans l'introduction. Et donc, bon, sans trop en dire, voilà. Il y a un gros maelstrom de sous-intrigues, mais vraiment bien amené, la narration est quand même efficace, on n'est pas perdu, passé le début un peu confus, où ça, on voit dans différentes périodes temporelles, mais donc voilà, c'est plutôt réussi, et même au niveau de la mise en scène, les scènes d'action toujours très efficaces, et puis un scénario quand même assez surprenant, au niveau de la disparition de certains personnages, de coups de théâtre... c'est vraiment efficace, quoi.
Bah c'est vrai qu'en tout cas on peut noter peut-être qu'on va enchaîner avec le box-office Elias, mais ce sont deux films qui ont extrêmement marché au box-office coréen, qui ont coûté assez cher aussi, et qu'il y a toujours ce savoir-faire sur les grosses productions qui est extrêmement présente et toujours admirable sur les films coréens.
Justement c'est remarquable, parce que dans les 5 plus gros succès de l'année au box-office coréen, 4 sont coréens, Il y a juste le troisième qui est Avengers, qui est un peu un succès, je pense, qui est dans le top 5 de tous les pays du monde. Mais du coup, en fait, oui, donc les deux films qui ont le plus marché, c'est Vétérans et Assassination, qui est avec donc 13 et 12 millions de spectateurs.
Toi, tu le dis d'un ton détaché comme ça, donc, alors que c'est quand même assez énorme.
C'est énorme, c'est énorme. 12 et
13 millions de spectateurs, on ne sait peut-être pas ce qu'on pense, mais on n'arrive pas à ces chiffres.
Comme je disais tout à l'heure, j'ai pas appuyé dessus. Et qui sont donc devenus les 3e et 6e plus grands succès de l'histoire du box-office coréen. Donc les dernières, on a Roaring to Orange, qui était le premier, mais là, on a cette année, on a que le 3e et le 6e.
C'était 17 millions quand même, Roaring to Orange.
On est à 4 millions près.
C'est énorme.
À 4 millions près, ouais.
Voilà, pas grand chose, quoi. Pas grand chose.
C'est que dalle, voyons.
Enfin, c'est pas grand chose, ouais. Donc à part ça, sinon, en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de films un peu. Pas passéistes, mais qui se basent un peu sur les époques avant de la Corée. Par exemple, le 5e film, c'est The Throne. Mmh. Et donc un drame historique coréen de la Showbox qui a beaucoup marché à sa sortie, qui s'est très vite essoufflé, mais qui a été qui a été un petit succès en Corée. Et à part ça, au final, à part les gros succès, on retrouve beaucoup de films américains. Pas forcément remarquables, par exemple, en Asie interne avec De Niro, qui est, je crois, qui a marché, mais sans plus. Il y a Terminator Genesis, il y a Ant-Man qui a marché partout, mais en Corée un peu moins. Il y a même Kingsman, qui est 6e plus grand succès de l'année en Corée du Sud. Donc c'est des films, je pense, en Corée du Sud, à part les énormes succès, il y a très rarement des films du milieu ou des films un peu plus, un peu moins, avec mon agent derrière, qui arrivent à se hisser dans le top 20, dans le top 10 du box-office. Là, à part des films que j'ai vus au FFCP, par exemple, il y a 20 qui est arrivé à la 17e place.
Qui est déjà un film cinéma populaire.
Oui, voilà. Bon, en fait, ouais, c'est ça. En fait, en Corée, à part les gros films, donc The Throne, Vétérans, Assassination, et un film qui s'appelle Auto My Father, qui est 4e plus grand succès de l'année, qui est sorti l'année dernière, mais qui a quand même réussi à avoir assez de vues cette année pour être dans le top 5. En fait, on a assez ça. C'est en fait les succès en Corée, c'est soit des gros blockbusters coréens, soit des blockbusters américains, et très peu de films un peu entre les deux.
Enfin, moi, c'est toujours mieux que les succès français au box-office français.
Qui sont Aladdin, Les Mignons et Les Profs 2, je tiens à le dire.
Voilà. c'est nos blockbusters.
Ils ont de la chance.
Les Mignons, ouais. Puisqu'il y en a d'ailleurs dans le top 20.
Moi j'ai honte de mon pays. Mais...
Oui, mais finalement, on en revient à cette dichotomie entre 3-4 gros films comme le dit Elias qui marchent, qu'on a vu, qu'on peut apprécier en festival, parce qu'il y a très peu de chances maintenant pour que ces films nous arrivent en France par des circuits de distribution classiques, que ce soit par la salle. Ce sont des films qui s'adressent aux priorités quand même à un public local. Ou par la vidéo du fait de ce qui est devenu le marché vidéo sur les films asiatiques. Et à côté de ça, on a l'impression qu'il n'y a vraiment plus rien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de premiers films qui sont presque fauchés, voilà, certains ont plein d'idées. On peut parler d'Alice in Eastern Land par exemple, qui est un premier film qui aligne des idées assez originales, mais qui manque d'un producteur derrière pour un peu les rassembler et couper un peu dans le gras pour polir un peu ce que ça pourrait être. Et donc voilà, cette dichotomie est de plus en plus marquée entre 3-4 gros films qui marchent très bien et plus rien avec un cinéma un peu à la traîne, un peu fauché derrière.
Mais après, ce qu'on a vu sur le festival apparemment, c'est que de toute façon, qualitativement, les plus petits films, ce n'est pas la route...
C'est ça le problème, parce que
c'est pas une question de qualité où on veut pas les voir, où le public refuse de les voir, simplement que les films l'aperçu qu'on a eu, c'est que les films méritent pas plus, quoi.
Alors Nicolas, tu parlais justement de films intéressants, est-ce que tu peux nous dire les 2-3 films
déjà l'année dernière, moi je crois qu'il y avait pas mal de films indépendants qui étaient intéressants présentés au festival. Moi je me rappelle plus tous les titres, mais il y avait déjà quand même pas mal de bons films comme Night Flight ou des trucs comme ça, ou ten minutes, même si je suis pas... Enfin, moi je trouve que c'est très intéressant.
C'est le film coréen de l'année dernière qui a fait le tour de tous les festivals par la suite. Voilà. Hein. Donc, de Berlin à Vesoul.
Cette année, déjà il y a Island qui est un peu mon coup de cœur du festival, qui est pour le coup assez loin de toutes les...
Très différent du reste.
Ok, très différent du reste, puisque c'est un vrai film fantastique avec des fantômes, un peu proche de Kurosawa, même si dans le style c'est assez différent. C'est un film sur le deuil, c'est un film mélancolique, et je trouve que c'est un très beau film parce que Parce que déjà, c'est dans un noir et blanc scope absolument sublime. Et quand on apprend derrière que le distributeur du film coréen voulait coloriser le film entièrement, on se demande des fois si les mecs qui pensent, enfin qui sont à la distribution en France comme en Corée ont un cerveau, ou un deuxième cerveau. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Sinon, bah, le film en fait est juste c'est vraiment un film très lent, mais vraiment qui nous happe du début à la fin, avec pas mal de couches narratives qui s'entremêlent, qui mélangent de temps, de lignes narratives. On est un peu perdu par moments, mais c'est assez agréable. Et je trouve qu'il y a vraiment des très belles choses dans le film. Je pourrais pas te développer, je vais développer ça un peu dans mon bilan parce qu'il faut que j'y pense encore et tout ça, mais c'est vraiment un film qui m'a beaucoup ému, surtout la fin. Le seul défaut qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'il est un peu trop explicatif sur la fin, alors qu'il n'y avait pas forcément besoin, tant on avait déjà un peu tout compris, et puis en plus, tout le reste est vraiment, joue vraiment sur l'image. Et la sensitivité, donc il n'y a pas vraiment besoin de trop d'explications sur la fin. Mais vraiment, le film, c'est vraiment mon coup de cœur.
Outre The Island, tout à l'heure, tu parlais justement d'une... Tu avais l'impression qu'il y avait une politisation du cinéma, en tout cas cet axe politique et critique qui était...
Alors, c'est pas forcément très subtil à chaque fois, c'est un peu le problème de son du cinéma coréen, c'est que... Enfin, dans certains cas, c'est qu'il ça manque un peu de subtilité.
Non, pas trop, non.
Mais je trouve, on a parlé de cartes. Une carte qui raconte l'histoire d'un combat de caissière et d'employé d'une grande surface. Ouais.
Une carte, c'est pour Caddy, c'est ça?
J'en sais
rien. C'est ça,
comme ça, dire. Oh mon dieu. Non, mais tu peux juste dire oui, c'est ça, et puis après.
T'en as l'air coupé, quoi. Donc,
carte, et donc qui raconte ce combat entre ces caissières et les employés dans une grande surface contre. Le méchant directeur et je suis le seul à avoir vu ici.
Oui, je l'ai pas encore.
Le méchant directeur qui veut le
capitaliste.
Voilà, capitaliste évidemment, qui va le virer parce qu'ils ont des pertes d'argent et tout ça, et donc c'est là qu'on voit.
C'est étonnant parce que c'est, j'ai pas vu le film, hein, mais c'est le directeur qui est une personnification en fait du capitalisme, ou c'est c'est le système qui est critiqué. Parce que,
c'est le système global, en fait. C'est que,
les Ardennes ont dépassé ça, pour le coup.
Le film n'est pas génial. Hein. Mais c'était surtout par rapport... Bon, il y avait celui-là, il y avait aussi Myriam Garirang, qui est un documentaire qui parle d'agriculteurs qui se battent pour empêcher l'installation de pylônes électriques dans leur région, qui anéantirait presque toute leur culture, si je me rappelle bien. Et donc c'est surtout en fait, ces films en fait montrent un peu la violence quotidienne par la police notamment, avec toutes ces espèces d'armées qui viennent dégager les gens, qui font des sittings pacifistes ou des trucs comme ça. Et c'est surtout sur cet axe, politiquement, surtout cet axe-là qui est montré dans le film. Donc après, je ne sais pas si exactement ça se passe comme ça en Corée, mais je pense déjà 2-3 films dans le festival qui montrent ça, des espèces de groupes de policiers, voire des groupes de truands qui sont engagés par les entreprises ou par les politiques pour dégager un peu toutes ces personnes gênantes entre guillemets pour le bien de la dynamique capitaliste coréenne entre guillemets. Et bon, c'est surtout ça qui m'a un peu choqué, qui est montré dans le film. Donc quand vous dites que c'est lisse, alors c'est peut-être parce que les films sont pas parfaits, que ça manque beaucoup de subtilité et que ça rentre dedans sans forcément prendre des gants, mais je trouve quand même qu'il y a quelque chose d'assez violent qui est montré dans le cinéma indépendant coréen à ce niveau-là.
Oui, mais c'est pas forcément les meilleurs films qu'on ait vus.
Ouais,
en fait, c'est ça le problème. C'est que souvent, en tout cas cette année, les films qui dénonçaient vraiment quelque chose...
Mais Vétérans, hein.
Oui, mais Vétérans, on va revenir à Vétérans, en fait.
Ouais, c'est intéressant.
Pour avoir rencontré Ryu Sung-won avec Martin, on a posé la question, justement, puisqu'à un moment donné,
oui,
le personnage principal... Non, mais je pense
que
le personnage principal, en fait, dit que la Corée est un pays de merde. Mmh. Et on a demandé, en fait, à Ryu Sung-won s'il avait une volonté de dénonciation. Mmh. Il nous a répondu que pas du tout, que ça allait dans le contexte du film où le personnage était énervé. Et je pense en fait que si c'est passé justement devant le comité de censure, oui. C'est que c'est parce que c'est un film comme ça, un film d'action.
Et comique aussi.
Et du coup, la dénonciation tombe complètement en fait.
Non, elle tombe pas à plat. C'est une idée, c'est pas du tout justement, au contraire, c'est le moyen justement de détourner
Yannick.
De tout temps, justement, pour éviter la censure, des réalisateurs ont œuvré dans des genres... je veux dire, tu prends Romero, qui fait de la critique politique, et il a mis des zombies dedans pour qu'on le fasse pas chier.
Je suis d'accord en général, mais pour ce film-là, je ne pense pas qu'il y ait une volonté critique.
Ah, je l'ai pas vu, hein, je peux pas chercher.
Oui, mais je suis d'accord avec toi,
juste
Yannick.
Juste pour rappeler le contexte, le personnage principal, pardon, c'est un flic. Juste pour rappeler le contexte, donc le personnage principal, c'est un flic incorruptible, donc qui se heurte à sa hiérarchie quand il enquête en fait sur le supposé suicide d'une de ses connaissances, voilà, d'un de ses amis, après une visite face à un chef d'entreprise. Où on sait que en fait il s'est fait battre, hein, parce que il réclamait un paiement qu'il devait avoir. Donc effectivement on a cette ce combat entre d'un côté quelqu'un qui représente l'autorité face à une bureaucratie qui est complètement corrompue, et de l'autre côté un riche qui a hérité en plus de son père de l'entreprise et qui de par son statut se croit absolument tout permis dans une société parce qu'il a de l'argent et donc acheter les gens. Acheter comme des biens matériels. Là où ça pose problème, c'est qu'effectivement, on n'est pas tout à fait dans une critique de la société, parce que ce personnage, en fait, est un personnage de vilain, de film de polar. Donc on entre effectivement par le biais du genre. On pourrait avoir cette lecture un petit peu métaphorique, mais le film va tellement loin dans la détestation du personnage principal qui, à la fin du film, agit complètement n'importe comment, que je trouve qu'on perd cette critique sociale qui pourrait émerger du film.
Moi, je pense pas que c'était le but, en fait.
Je trouve pas que... Qu'est-ce que tu veux dire par la détestation du personnage principal?
C'est vraiment le pur méchant, quoi.
Au bout d'un moment, il devient tellement... c'est le chef d'entreprise, jeune, arriviste, absolument odieux avec les femmes dans la première scène. En plus, il est misogyne. Il utilise les... Non, pas le policier, le personnage de... Enfin, c'est Némésis, le personnage du méchant. Et en fait, à la fin du film, il y a un petit spoiler, voilà, ça devient vraiment absolument n'importe quoi, puisqu'il se croit tellement tout permis qu'il va défoncer tout le monde en voiture, dans les rues de Séoul,
justement, moi, je trouve que...
se faire avoir de manière assez bête parce qu'on le filme sur un téléphone portable.
Mais en fait,
sur plein de téléphones portables.
Ryan Sung-wan l'a expliqué dans l'interview, si j'ai bien lu, c'est que c'est un personnage qui est le produit inconscient justement de la société, et à travers ça justement c'est là où arrive la dénonciation, c'est que le Ryu Sung-wan explique que le personnage est inconscient de ce qu'il fait, il prend même pas conscience que c'est mal, et à travers ça justement on voit que c'est cette société au capitalisme exacerbé qui forme des personnages comme ça, et donc c'est forcément, oui, c'est dans l'exagération, ça va dans le ton du film, mais pour moi ça veut pas forcément dire que la dénonciation tombe à plat, au contraire, c'est comme disait Yannick, c'est une façon de détourner et de la censure pour au contraire pouvoir faire passer ses idées.
Alors moi je vais être dans l'entre-deux. Il y a pas zéro critique, zéro dénonciation dans le film, mais je suis pas d'accord pour dire que c'est un film
Après, c'est pas un film ultra politique qu'il faut prendre au sérieux, absolument. Mais c'est là.
Pour moi, le caractère, que ce soit le méchant, le conglomérat coréen, etc., c'est un postulat de base dans les trois quarts des films de ce genre-là. Et du coup, pour moi, ça perd un peu de critique sociale.
Parce que c'est un lieu commun.
Parce que c'est devenu un lieu commun, et forcément, il va y avoir ça dans un film coréen. Ça veut pas dire, en fait, que Ryu Sung-wan est. Ou tout autre réalisateur est d'accord avec ce qui se passe dans son pays. À mon avis, comme beaucoup d'autres, il dénonce ça.
Mais si ça revient souvent, justement...
Mais c'est devenu un tel lieu commun, en fait, que pour moi, la dénonciation ne fonctionne plus. Et je pense vraiment... Après, quand il a répondu à notre question, il a peut-être noyé le poisson, évidemment. Mais en même temps, face à un média français, je ne vois pas pourquoi il aurait caché qu'il voulait dénoncer quelque chose. Le jour où les Coréens iront traduire le site d'Istasia... On en est encore loin.
D'après ce que j'ai entendu, enfin, je ne vais pas m'épancher longuement là-dessus, mais les Coréens, enfin les petits Coréens, surveillent vachement ce qui est dit dans les festivals étrangers, notamment au FFCP. Donc,
Oui, mais bon.
Bon, après.
Quand je vois par exemple Tsuark qui dit dans les bonus du DVD de la bataille de la montagne du Tigre qu'ils ont gommé tout l'aspect. Tout la l'aspect propagande de son film, on se dit que des fois ils disent quand même des conneries. Hein.
Mm-hmm. Oui, c'est une manière de se protéger
pour
aussi.
Pour pas oser, voilà. Mais faut pas toujours prendre au pied de la lettre ce qu'ils nous disent
Alors, je suis d'accord avec ça. Et quand je dis justement que pour moi, c'est la critique sociale est désamorcée en fait par l'exagération du film. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un côté exutoire là-dedans, de montrer. Un personnage de chef d'entreprise qui se croit tout permis.
C'est pas le but premier du film.
Ils sont tous corrompus.
Mais je suis d'accord, c'est un défouloir, mais ça reste en toile de fond.
Et en fait, il y a tout ce qui c'est qu'à la fin, le personnage du méchant, on ne pense pas en le voyant, on ne pense pas à partir de. Peut-être la moitié du film, en le voyant, c'est un personnage de riche, de chef d'entreprise. On pense juste c'est un méchant, c'est un psychopathe.
Parce qu'il est complètement fou en plus, la moitié du film.
Je trouve qu'en fait, ce personnage est tellement fou et tellement exagéré qu'en fait, il perd ce qu'il y avait à la base. À part la scène où il fait tabasser son employé, il n'y a aucune scène où on se dit « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que lui, j'étais chef d'entreprise. »
Justement, je suis d'accord avec toi, mais il y a quand même quelques scènes avec son père, son assistant, et qui replace le personnage dans le contexte, quand même.
Et je pense qu'on est tous d'accord, en fait. C'est en toile de fond, mais c'est pas le but du film.
Voilà.
Je suis tout à fait d'accord, mais ça veut pas dire que ça tombe à plat. Ça tombe pas du tout.
Mais là, parce que c'est vrai que la question, c'était sur cette politisation, en fait, du cinéma. Et effectivement, on a parlé de lieux communs, d'exutoire, d'une toile de fond, mais c'est pas non plus... quelque chose qui apparaît de manière extrêmement prégnante dans les films
dans le
cinéma indépendant
aussi. Voilà.
Ah ouais.
C'est le centre du film. Après, c'est pas toute la sélection. Pour moi, c'est le thème principal de toute façon de la sélection, c'est les relations filiales père-fils. Donc, on parlera de bien.